cœur de l'info sur VOA Afrique.
C'est avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, au sommaire, retour sur le triste anniversaire de l'enlèvement des 276 jeunes femmes de Chibok au Nigeria. Coup d'envoi au Sénégal d'une mobilisation panafricaine pour exiger la libération des activistes congolais.
L'espoir d'une véritable démocratie en Afrique, qui est née au Sénégal en 2012 et qui a pris naissance au Burkina il y a quelques mois, puisse également voir le jour au Congo Brazzaville, au Burundi et dans d'autres pays.
Nous entendrons l'analyse de Sédi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Nous évoquerons également les violences en Guinée, les élections au Soudan et les grèves estudiantines au Tchad. Au Nigeria, cela fait un an que 276 lycéennes ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du pays. Si une cinquantaine d'entre elles ont réussi à s'enfuir, cet enlèvement de masse avait suscité une indignation internationale, politique et célébrités reprenant le slogan « Bring back our girls », ramenez-nous nos filles. Malgré l'envoi d'experts internationaux en prise d'otages, personne n'a pu localiser les lycéennes de Chibok. Le responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, Florent Gel, revient sur cet enlèvement de masse et sur les raisons qui poussent Boko Haram à cibler les femmes instruites. Florent Gel.
C'est un triste anniversaire pour tout le Nigeria, démontrant que le combat contre Boko Haram continue encore aujourd'hui et que malgré le succès des élections présidentielles au Nigeria, il reste encore beaucoup à faire pour vaincre militairement, mais aussi socialement Boko Haram, pour faire en sorte que l'ensemble des personnes qui ont été kidnappées par Boko Haram puissent rentrer chez elles, mais que aussi on puisse désamorcer le phénomène Boko Haram sur le fond, c'est-à-dire faire en sorte que les inégalités sociales, les violations des droits humains cessent et que le nord du Nigeria puisse retrouver une stabilité, une normalité, évidemment, la paix.
Un an sans avoir aucune nouvelle, est-ce qu'on peut encore avoir espoir que ces jeunes filles soient toujours vivantes?
On l'espère. Alors il y a des rumeurs comme quoi elles auraient pu certainement être exécutées. Selon les enquêtes que la FIDH a menées, c'est pas forcément totalement probant, puisque souvent les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont enlevées par Boko Haram sont souvent mariées de force, deviennent souvent aussi des esclaves sexuels ou des esclaves au quotidien des forces fondamentalistes. Mais il y a tout lieu de croire et de penser qu'un certain nombre d'entre elles sont toujours en vie et sont toujours retenues contre leur volonté par les adeptes de Boko Haram. Et c'est pour cette raison qu'elles sont un symbole. Et il y en a aussi bien d'autres qui ont été enlevées, puisque selon les chiffres et les estimations que l'on peut donner, elles seraient plus de peut-être 2000 à avoir été enlevées. Ces femmes musulmanes ou chrétiennes retenues par Boko Haram aujourd'hui doivent pouvoir évidemment retrouver leur famille et une vie normale.
On a l'impression que Boko Haram cible vraiment les femmes.
C'est effectivement un des objectifs de ces mouvements djihadistes, c'est de cibler les femmes, car ils considèrent que les femmes doivent être mariées de force, gérer un foyer, ne pas avoir d'éducation. Elles doivent, selon eux, se conformer aux principes les plus ancestraux, les plus radicaux, les plus régressistes d'une interprétation passéiste de l'islam, à savoir que les femmes doivent en gros rester au foyer et procréer uniquement. Et dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, effectivement, toutes les femmes, et particulièrement les femmes éduquées, sont une cible de Boko Haram. Et donc évidemment, les femmes qui vont à l'école sont une cible prioritaire.
Florent Gel, responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Une date commémorative qu'a également choisi Amnesty International pour publier un rapport sur les enlèvements des femmes au Nigeria. Selon l'ONG, ce sont au moins 2000 femmes et jeunes filles nigérianes qui ont été enlevées par Boko Haram depuis 2014 et réduites à l'état de servantes, d'esclaves sexuels ou forcées à combattre. Un rapport qui est fondé sur près de 200 témoignages. Camille Gros-Didier a joint Aliountine. Il est directeur Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour Amnesty International.
On parle à cet anniversaire justement des jeunes filles de Chibok qui ont été enlevées, les 276, mais Amnesty a documenté 2000 jeunes filles qui ont été enlevées et amenées dans les camps qui ont été des esclaves sexuels, qui ont été mariées de force. D'autres, finalement, on les amène dans les camps pour les entraîner pour faire la guerre, des fois même pour les transformer en pompe humaine. C'est vraiment cet enfer que vivent vraiment les gens qui sont sous le contrôle de Boko Haram, que Amnesty a très bien documenté, avec quand même des crimes qui sont massifs, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, parce que beaucoup de gens ont été ciblés parce qu'ils les considèrent comme des mécréants. Et à partir de ce moment-là, c'est des gens de l'administration, les leaders politiques locaux, les chefs coutumiers, les fonctionnaires, les professeurs, les infirmiers qui ont été systématiquement ciblés et tués. C'est effrayant également le bilan parce qu'il y a près de 5500 personnes qui ont été tuées depuis, bien sûr, 2014. En 2015 seulement, il y a plus de 1500 civils, 70 attaques de villages, de villes, et puis 3700 édifices publics, mosquées, que ce soit des églises, des trucs de police, des dispensaires qui ont été complètement détruits par Boko Haram.
Aliountine, directeur Afrique de l'Ouest et Afrique centrale pour Amnesty International. Au Sénégal, le mouvement citoyen Y en a marre et plusieurs organisations de la société civile, dont Amnesty International, ont décidé de mutualiser leurs forces afin d'exiger des autorités de la RDC la libération des militants arrêtés en mars dernier. Une pétition et des manifestations sont prévues dans plusieurs pays africains. J'ai joint Sédi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal.
Ce rassemblement est destiné à protester contre l'arrestation et la détention au secret d'activistes pro-démocratie au Congo. Ces activistes ont été arrêtés en même temps que leurs confrères sénégalais et burkinabés qui d'ailleurs ont été relâchés. Mais les Congolais, eux, sont toujours en détention au secret sans avoir été inculpés formellement et présentés en juge et sans qu'ils aient un avocat ni que leurs parents aient accès à eux. Évidemment, c'est une détention illégale, une détention secrète, contraire à la loi congolaise et contraire au droit international. Donc nous voulons mobiliser les opinions publiques en Afrique d'abord, mais aussi dans les principales capitales du monde, y compris Washington, pour exiger le 30 leur libération. Nous voulons descendre dans les rues, devant les ambassades congolaises, pour mobiliser et informer les opinions publiques sur la pratique répressive du régime congolais, qui est destinée à réduire au silence toutes les voix qui s'élèvent contre une modification de la Constitution afin de permettre au président Kabila de modifier cette Constitution-là et de pouvoir rester au pouvoir 20 années de plus. Parce que après 20 ans de pouvoir Kabila père, Kabila fils, il veut modifier aujourd'hui la Constitution pour encore s'éterniser au pouvoir. Et pour cela, il veut réduire ses jeunes au silence.
Le fait que plusieurs pays africains s'impliquent pour la libération d'activistes, c'est un phénomène nouveau en Afrique.
C'est un phénomène nouveau à la dimension même du mouvement pro-démocratie porté essentiellement par les jeunes, et également un phénomène nouveau en Afrique. C'est un phénomène qui, évidemment, est pris avec beaucoup d'enthousiasme par les peuples africains, mais qui également est un phénomène extrêmement inquiétant pour les dirigeants africains. Ce qui s'est passé au Sénégal en 2012 et ce qui s'est passé au Burkina il y a quelques mois pourrait très bien se passer au Congo si ce mouvement, en l'occurrence Filimbi, n'est pas réprimé. C'est pour cela que pour nous, il est important de se mobiliser pour que ces hommes soient libérés, pour que l'espoir d'une véritable démocratie en Afrique, qui est née au Sénégal en 2012 et qui a pris naissance au Burkina il y a quelques mois, puisse également voir le jour au Congo, au Congo-Brazzaville, au Burundi et dans d'autres pays où des chefs d'État
ont des velléités de modification des constitutions pour pouvoir s'éterniser au pouvoir.
Est-ce que ça veut dire qu'enfin, on a une jeunesse africaine consciente et soucieuse des principes démocratiques de leur pays ?
Absolument. Une nouvelle conscience au sein de la jeunesse africaine. Une jeunesse qui ne veut plus considérer la dictature et la, comme une fatalité, mais qui est à l'affronter pour qu'en Afrique, on ne soit plus un continent où on parle de coups d'État, où on parle de violence et de guerre civile, mais un continent où on puisse parler de démocratie véritable, de bonne gouvernance, de paix et de développement.
Sedi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Maintenant sur la Guinée-Conakry où le pouvoir a lancé un appel au dialogue après des manifestations violentes dans la capitale. Le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana a appelé au dialogue pour parvenir à, je le cite, un consensus autour des échéances électorales. Un appel bien reçu par l'opposition guinéenne qui avait appelé ses militants à marcher contre l'insécurité en début de semaine. Plusieurs personnes avaient été blessées dans ces manifestations, dont certaines par balles. Reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Je voudrais, au nom de l'opposition républicaine, vous adresser nos vives félicitations et vous demander demain de reprendre la manifestation.
Le chef de file de l'opposition lance ainsi un nouveau mot d'ordre après une journée de violence.
Partout, les gens se sont mobilisés et ont répondu positivement à l'appel de l'opposition républicaine. Cortèges ont été bloqués par les forces de l'ordre ici et là.
Plusieurs manifestants et agents des forces de maintien d'ordre ont été blessés dans des affrontements dans les fiefs de l'opposition. Le gouvernement parle d'une dizaine de blessés, dont 6 par balle, et accuse les organisateurs de la marche non autorisée de semer des troubles et empêcher le fonctionnement normal des services. Son porte-parole parle des difficultés dans la gestion d'Ebola. Albert Damantin Camara.
Au-delà des répercussions économiques, ce sont les répercussions sanitaires. À cause de ces manifestations, vous aviez des centaines de contacts qui n'ont pas été suivis et qui peuvent déclencher la maladie à tout moment et donc contaminer tout leur entourage. Vous avez des décès communautaires qui ne sont pas enregistrés et qui peuvent également contaminer tout l'entourage. Vous avez le comité de suivi et de veille qui ne peuvent pas faire leur travail. Vous avez les ambulanciers qui ne peuvent pas se déplacer. Donc ça met en péril l'urgence sanitaire nationale et ça met en péril des milliers et des millions de vies. Je pense que cela en soi est largement suffisant pour qu'enfin on arrête avec ces manifestations et qu'on discute.
L'opposition guinéenne a présenté hier un bilan d'une trentaine de blessés, dont 7 par balle. Elle accuse à son tour la police et la gendarmerie d'avoir fait usage d'armes à feu contre ses militants. Une raison suffisante, dit-elle, pour continuer les manifestations. Des manifestations qui se sont poursuivies ce matin dans les fiefs de l'opposition où des jeunes ont brûlé des pneus et mis des barrages sur l'axe de la route Le Prince. Dans ces quartiers, forces de l'ordre et manifestants ont échangé tirs de gaz lacrymogène contre jets de pierre. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
Au Soudan, les Soudanais avaient 3 jours pour se rendre aux urnes et désigner leurs nouveaux dirigeants, leur président de la République, mais aussi leurs députés et leurs responsables de région. Si les résultats sont attendus à la fin du mois, peu de suspense en ce qui concerne la magistrature suprême. Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 26 ans, devrait être reconduit sans surprise. Eddy Sango.
13,3 millions d'électeurs soudanais doivent théoriquement choisir entre M. Béchir et 15 autres concurrents. M. Béchir, qui a voté lundi, est assuré d'une victoire. Ces élections se déroulent sans l'opposition qui, de manière générale, les boycotte. Et c'est dans un contexte d'isolement sur la scène internationale que le pays va aux urnes. M. Béchir étant réclamé depuis 2009 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité au Darfour. L'organisation de ces élections est en fait dénoncée par les États-Unis et l'Union européenne qui estime qu'elles ne peuvent donner un résultat crédible et légitime. Les dialogues sont contournés, certains groupes sont exclus et les droits civiques et politiques politique violée selon Bruxelles. Jeudi, Béchir, âgé de 71 ans et au pouvoir depuis 1989, a libéré deux opposants arrêtés en décembre. Une tentative visant, selon l'avocat des opposants, à alléger la pression internationale sur le régime accusé de chercher à étouffer toute voix dissidente.
Tchad, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Tchad, donc le 7 pour la commune de N'Djamena, ont fait grève pour réclamer le paiement de leur salaire du mois de mars. Les élèves des deux principaux lycées de la capitale tchadienne ont alors tenté de manifester en ce début de semaine en vue de les soutenir, mais les forces de l'ordre ont empêché la manifestation. Le point avec André Kodadjingar, journaliste à FM Liberté, notre partenaire à N'Djamena.
Sur 8 banques de la place où sont logés le salaire des enseignants membres du syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena, 4 seulement ont été pourvus par le trésor public pour le mois de mars. Du côté de la billetterie, toujours au niveau du trésor public, aucun paiement n'est déclenché. Situation qui oblige le syndicat des enseignants du Tchad pour la commune de N'Djamena à durcir sa position. Il a reconduit sa grève pour 3 jours à compter du samedi 11 au mardi 14 avril 2015. Cette situation a mécontenté les élèves de deux grands lycées de la capitale, notamment les lycées Félix Eboué et d'enseignement technique. Ces élèves ont tenté de manifester ce matin pour soutenir leurs enseignants en grève. Mais ce mouvement d'humeur a été très vite circonscrit par les forces de l'ordre. Quelques élèves de la classe de terminale expriment leur ras-le-bol.
Nous, on est les cadres de demain et le gouvernement ne nous considère pas.
Depuis janvier, on n'a pas fait cours normalement.
On a fait 2 semaines, j'ai perdu 1 mois à la maison. On a beaucoup raté des heures. Maintenant, ça nous reste beaucoup des chapitres qu'on n'a pas vus. Et puis maintenant, c'est avec manifestation des profs qui n'ont pas gagné encore. Donc les heures qu'on perd là, ça nous fait mal.
Si les enseignants sont en grève, c'est que les élèves qui sont touchés. On a du droit, plein de droits de revendiquer nos enseignants là.
Le secrétaire général régional du syndicat des anciens du Tchad pour la commune de N'Djamena, Gartoide Blaise, trouve légitime la réaction de ses élèves.
Dans un pays normal, la mission première de l'État, c'est d'assurer donc le paiement régulier des agents de l'État. Auquel cas, on se retrouve avec un dysfonctionnement donc de l'État. Si les enfants manifestent, ça ne peut être que légitime. Nous, à chaque fois que nous déclenchons une grève, nous saisissons la police pour dire, mais écoutez, nous sommes en grève, la rue, c'est vous qui gérez. Si il arrive des cas et autres, l'État est ciblement responsable. Ça ne peut en aucun cas engager la responsabilité du syndicat.
Une assemblée générale et évaluative des enseignants pour la commune de N'Djamena est prévue pour ce mardi 14 avril 2015. Selon le secrétaire général du CET pour la commune de N'Djamena, Gartoide Blaise, si le dernier enseignant n'a pas été payé, la grève va être reconduite pour la 3e fois consécutive. Les élèves, quant à eux, se disent déterminés à perturber les cours dans les écoles privées où les cours fonctionnent si jamais la situation n'est pas décantée dans un bref délai. André Kodumadjingar, N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Mikhaïl Dubinsky et Zuber Altaïb. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h10, temps universel sur VOA Afrique. Ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec le groupe Touareg Tinariwan et leur single Toumas Tincha. Bonne soirée et bonne nuit à tous. Must they shine?